à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Chers auditeurs, c'est toujours une grande joie de vous retrouver. Oui, Jésus jette sur la terre le feu de l'amour sans limite. L'amour veut être aimé. Il frappe à la porte de notre cœur. Ouvrons-lui. Alors il abattra nos murs et nos barricades intérieures, tout ce qui nous isole ou nous enlaidit. Laissons-le nous bouleverser profondément. Alors nos murs s'écrouleront. Et que le choc produit par l'écroulement de nos murs intérieurs allume en nous le feu désiré. Ce feu de l'amour sans limite du buisson ardent. Nous passerons ainsi de la défiguration à la transfiguration. Je crois que seul le Christ lumière peut changer notre regard sur l'histoire des événements, sur les hommes et les choses, sur notre être et sur notre vie. Je crois aussi qu'être chrétien, c'est se situer dans un rapport constant à l'Évangile. Et on n'est pas chrétien à certaines heures et à d'autres non. Être chrétien est une attitude existentielle. Il est important de partager avec courage nos convictions pour la dignité de l'homme et en faveur de la vie. Le prophète Michée esquissait déjà ce programme, je le cite. « On t'a fait savoir, ô homme, ce que Dieu attend de toi. Rien d'autre que de marcher avec ton Dieu, pratiquer la justice et aimer avec tendresse. » Et nul domaine n'échappe à cette exigence, même et surtout le politique, où s'élabore ce qui décide de la société, de la justice et par-dessus tout de la paix. Et cela au Liban comme partout. La tragédie est partout la même. L'Européen de notre temps, qui renonce à l'humanisme chrétien dont il est pétri, est en train de mourir d'inanition. Car la position de l'homme sans Dieu et aussi contre Dieu, la négation de la ressemblance de Dieu dans l'homme, l'affirmation du paganisme contre le christianisme, conduit à la négation et à la destruction de l'homme avec toutes ses conséquences horribles et monstrueuses. Je me demande parfois si Dieu ne permet pas en islam la multiplication des enfants par le nombre pour réparer chez nous les crimes d'une société sans Dieu et surtout l'assassinat des petits fœtus qui hurlent dans nos consciences. N'est-ce pas là le vrai terrorisme et la cause réelle de cette violence exacerbée débouchant sur la guerre? Mère Teresa le disait toujours, un pays qui favorise l'avortement ne sera jamais en paix. Ayant perdu Dieu en voulant se trouver, l'homme fatalement doit perdre aussi l'homme, parce que l'homme n'existe que comme image et ressemblance de Dieu. En détachant l'homme de Dieu, la culture devait engendrer la civilisation. Et sous prétexte d'affranchir l'homme, de le libérer, elle ne l'a pas seulement enchaîné à lui-même, à ses propres limites, à ce qui est une cristallisation incompatible avec la vie. Elle en fait la proie des éléments inférieurs, des forces élémentales déchaînées, des instincts mystérieux de la nature, dans la dépendance desquels nous tombons aussitôt que nous abandonnons les puissances supérieures, les vertus morales et spirituelles qui nous introduisent dans les sphères de l'ordre divin. Car s'il est en haut une hiérarchie organique où l'inférieur est librement soumis au supérieur et jouit comme lui et avec lui de l'harmonie que produit son obéissance et sa subordination, il est en bas une autre hiérarchie fixe et mécanique, une hiérarchie fatale d'où est essentiellement exclue toute idée de liberté. C'est à cette nouvelle hiérarchie que le monde moderne est assujetti, au prix de la joie divine, pour trouver au bout de son souffle pseudo-créateur la limite et la fin de la mesure humaine qui se traduit par un multiple désespoir et par le reniement de l'homme lui-même. Ce n'est plus alors le jour et la joie de la paix qui règne, mais le soir qui descend vers une satanocratie qui dénature l'homme et la guerre et le feu rouge. Cette guerre ne commence-t-elle pas au-dedans de nous? Si, bien sûr, car notre mémoire personnelle ou collective, c'est-à-dire historique, est profondément blessée, ce qui exige une guérison urgente. Une guérison urgente pour permettre à chacun de nous de devenir un artisan de paix. Le thème de notre réflexion sera donc la guérison intérieure et plus précisément les pas qui nous mènent vers cette guérison. Ne confondons pas la guérison intérieure avec les crises de croissance que nous rencontrons dans toute notre vie chrétienne. La guérison est un processus par lequel celui qui est blessé, malade, retrouve la bonne santé psychologique. La guérison intérieure dans la Bible touche au domaine affectif, intellectuel et surtout au domaine de l'inconscient. Voyons le salut. La première grande guérison, c'est bien sûr le pardon de nos péchés et la paix que nous recevons dans notre âme à ce moment-là. Notre âme est ce qui nous permet d'exprimer la vie affective, intellectuelle et notre vie de relation avec les autres. Considérons les blessures de la vie. Or, nous avons tous besoin d'être guéris d'une manière ou d'une autre, car la vie apporte à chacun des blessures plus ou moins profondes que Jésus veut et peut guérir. Et si le Saint-Esprit nous révèle une blessure, même insignifiante à nos yeux, laissons Jésus nous guérir. Nous serons étonnés de constater ensuite une plus grande liberté dans la vie de l'Esprit et dans nos relations avec les autres. Rien n'est trop petit pour le Seigneur. Même les cheveux de notre tête nous sont tous comptés. La guérison intérieure est, pour prendre une image de l'Ancien Testament, une de ces villes fortes que Dieu nous demande de conquérir. Lorsque les Israélites sont entrés en Canaan, les combats ne faisaient que commencer. Il y avait des promesses, un pays de lait et de miel, des vallées et des sources, mais aussi des villes fortes à prendre, à l'image de Jéricho, c'est-à-dire autant de problèmes à régler ou de blessures à guérir. La conversion ne fait pas tout. Soyons clairs, ce n'est pas parce que quelqu'un est converti qu'il a résolu tous ses problèmes ou qu'il est guéri de tout son passé. Le plan de Dieu pour les Israélites était de les amener à conquérir tout le pays jusqu'à Jérusalem, la ville de la paix, qui a été la dernière ville prise des siècles plus tard. À la femme pécheresse, Jésus dit « Va et ne pêche plus », littéralement « entre dans la paix ». Il y a une progression dans la paix, un chemin de paix. L'aveugle de Bethsaïda fut guéri progressivement par deux attouchements de Jésus. Nous avons la même image en Ézéchiel qui nous montre la progression du chrétien dans la plénitude de la vie spirituelle, qui inclut aussi la guérison. L'eau monte aux chevilles, puis aux genoux, aux reins, et puis ensuite il faut nager. Cette progression demande du temps. Un nouveau converti est comme Lazare ressuscité. Il est à nouveau en vie. Mais il faut que quelqu'un lui enlève, une à une, chaque bandelette qui l'immobilise. Saint Jean, vous, déliez-le. Et c'est cela la sanctification pratique, la guérison intérieure. Ne confondons pas l'entrée dans la vie chrétienne et notre arrivée au ciel. Dieu va nous aider à conquérir ces villes fortes, nos Jéricho, ces obstacles qui ne doivent pas être contournés, mais affrontés et vaincus. Ne disons pas « Oh, je suis un peu déprimé, je suis agressif ou timide, j'ai tel ou tel problème, je les réglerai plus tard, pour le moment je grandis ». Non, nous ne pouvons pas laisser derrière nous, dans notre vie, des îlots de résistance non résolus, non conquis, car ils grandiront avec le temps en risquant de nous mener dans une impasse dans notre vie spirituelle. Nos échecs ou nos difficultés à progresser proviennent souvent de problèmes non réglés, à l'exemple de tant d'hommes de la Bible. Apprenons de l'exemple pratique suivant où se trouve la cause des problèmes. Un chrétien, conscient de ses faiblesses, avait l'habitude de prier ainsi en public. « Seigneur, enlève de ma vie les toiles d'araignée !» Et il répéta cette formule si souvent qu'un jour, un chrétien, lassé, pria ainsi juste après lui. « Seigneur, je t'en supplie, tue cette araignée qui cause tant de dégâts !» Ce genre de prière est efficace, car il est préférable de s'attaquer à la cause de nos problèmes plutôt qu'à leurs conséquences. Voici quelques exemples bibliques. La jalousie de Caïn l'a poussé au meurtre. La négligence d'Ésaü lui a fait perdre sa bénédiction. L'orgueil de Saül lui a fait perdre la royauté. L'immoralité de David lui a fait perdre son enfant et le privilège de construire le temple. Il a ensuite assisté au déchirement de sa famille, et l'amour de Judas pour l'argent et son refus du pardon du Christ l'ont amené au suicide. Notons aussi qu'une fois Jéricho détruite, elle ne devait pas être rebâtie. Ne revenons plus sur les problèmes réglés ou sur les péchés pardonnés. Allons plus loin dans la conquête et progressons. Vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Josué 1, verset 11. Jésus veut nous guérir et l'ennemi veut nous détruire. Alors que Jésus veut guérir les cœurs blessés, l'ennemi veut nous détruire ou nous maintenir prisonniers de nos problèmes. Jésus lui-même dit qu'il a été envoyé par son Père pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la libération et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour libérer les opprimés. C'est pour la liberté qu'il nous a franchis, et non pas pour que nous traînions nos problèmes comme autant de boulets. Lorsqu'un pompier repêche un noyé, celui-ci est considéré comme sauvé dès cet instant, c'est la conversion. Mais il ne sera vraiment et parfaitement sauvé qu'une fois ramené sur la rive, séché, réconforté, assisté moralement et spirituellement, car il a peut-être cherché à en finir avec la vie, et le salut ne consistera pas seulement à le sortir de l'eau, mais à lui redonner le goût de vivre, à l'aider dans ses difficultés familiales, etc. Par contre, n'oublions pas que notre ennemi se réjouit lorsque les chrétiens restent leur vie durant avec des blessures ouvertes qui les affaiblissent. Il déteste nous voir heureux, libérés, épanouis ou guéris, donc efficaces pour en aider d'autres et pour les amener à la liberté. Il est le meurtrier et il poursuit notre âme. Il est le voleur et le brigand. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Il nous fait douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit qu'il peut guérir les blessures de mon cœur et de mon subconscient? Sa ruse est de se faire oublier en nous faisant croire que c'est nos propres pensées ou en grossissant nos problèmes au point que nous désespérions d'en sortir. Si nous savons le reconnaître dans les tentations venant de l'extérieur, souvent nous oublions qu'il peut trouver un accès au travers des problèmes non résolus de notre vie. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, etc. Matthieu 15, 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Amos 5, 19. Si le serpent nous mord, c'est qu'il peut pénétrer par une faille. Et la muraille, ici, est l'image de notre personnalité. Alors l'ennemi va tout faire pour empêcher que se reconstruisent les brèches de notre personnalité, car s'il n'y a plus de brèches, si les blessures sont cicatrisées, nous pourrons dire par la foi, comme Jésus, « L'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. » Le livre de Néhémie montre les murailles de Jérusalem en ruine, les portes consumées par le feu, les enfants d'Israël, Sambalat avec ses alliés, qui est une image de l'ennemi, va ruser pour contrecarrer la reconstruction qui se fera malgré tout. Notre attitude face à l'adversaire doit être celle de Néhémie. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem.
Je voudrais voir la mer courir sur les rochers, entendre rire le vent, et puis aussi voler. Tous les élans du monde animent mon âme, comme un ruisseau fugace, en moi coule la grâce. Ô mon Jésus, écoute ma prière, viens habiter mon cœur de ton désir, vivre avec moi le sacrement du meilleur et du pire. Cours à perdre haleine, je retiens mon souffle. J'entends ton pas qui vient, Seigneur, prends ma main. J'aimerais te consoler, du ciel te voir sourire, m'étendre sur la croix et d'amour mourir. Ô mon Jésus, écoute ma prière, viens habiter mon cœur de ton désir, vivre à avec moi le sacrement du meilleur et du pire. Je voudrais voir les hommes chanter ta louange, ravis en un seul cœur dans la cour des anges. Je voudrais, ô mon roi, que ton feu sur la terre embrase notre foi et nous montre le Père. Ô mon Jésus, écoute ma prière, viens habiter mon cœur de ton désir, vivre avec moi le sacrement du meilleur et du pire.
J'attire votre attention sur 6 façons de traiter nos problèmes sans pour autant les régler. La première, la projection. Pour me disculper, pour ne pas porter moi-même le tort de mes blessures, je cherche à faire reposer la responsabilité du problème sur quelqu'un d'autre. La société, les circonstances, Dieu qui m'a fait comme je suis, mes parents, les moines, les religieux, l'Église, etc. Adam répond: la femme que tu as mise près de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et la femme dit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ainsi, on projette toujours la faute sur l'autre. Lorsque deux automobilistes s'accrochent, c'est toujours la faute de l'autre. Que de coupables, que de responsables je peux trouver pour ne pas reconnaître ma responsabilité dans ma vie. La deuxième façon, la compensation. Pour rétablir la balance de mes fautes, de mes erreurs, devant Dieu et devant les hommes, pour les compenser, je vais faire du bien. Autrement dit, je paye pour mes péchés et pour mes fautes. David, après avoir péché, bien qu'il ait reçu le pardon de Dieu, pense qu'il lui faut faire quelque chose de plus. Il décide de lui construire un temple, alors que Dieu ne lui a pas demandé cela. Inutile de passer, par exemple, plus de temps avec Dieu, donner davantage d'offrandes, lire davantage la Bible, si c'est dans le but inconscient de compenser une faute ou une erreur. Dieu nous pardonne gratuitement. Nous n'avons rien à y ajouter. Les choses les plus difficiles à accepter, ce sont l'amour et le pardon gratuit du Seigneur. Et notre tendance à nous, c'est de vouloir compenser pour nous racheter d'une faute. La troisième, le défoulement partiel. C'est le principe de la marmite à vapeur, la cocotte minute. On lâche la pression, on évacue le trop-plein pour être soulagé. Autrement dit, on confesse partiellement un péché, une faute, une erreur. On résout à moitié un problème. C'est l'histoire du contribuable qui a fraudé le fisc dans sa déclaration d'impôt. Puis sa conscience le travaille, il est troublé, alors il envoie un chèque à son percepteur en ajoutant dans la lettre: si je ne dors pas mieux, je vous enverrai le reste. Le défoulement partiel soulage un moment notre conscience, mais le problème n'est pas réglé et refera surface tôt ou tard. La quatrième, l'euphémisme. Déjà 4, vous voyez que l'on ne manque pas de ressources pour ne pas régler ses problèmes. L'euphémisme, c'est l'adoucissement d'une expression par l'emploi d'un mot favorable. Un vol sera appelé un emprunt, un mensonge, une exagération, l'adultère devient une liaison. Mes fautes sont dues à ma nature, à mon caractère, à mes erreurs, les circonstances qui en sont responsables. Or, Dieu nous pardonne si nous appelons les choses par leur nom. Je t'ai fait connaître mon péché, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. ne cherchons pas à fuir en essayant de trouver d'autres mots pour ne pas assumer la responsabilité de notre vie passée. La cinquième façon, la rationalisation. Dans ce procédé, je trouve, après coup, des raisons convaincantes pour justifier mon attitude et supprimer l'angoisse de ma culpabilité. Je le fais souvent en invoquant une valeur supérieure. Je mens, mais c'est pour un bien. C'est un pieux mensonge. J'ai de saintes colères. Vous savez, l'adversaire a beaucoup de valeurs supérieures à nous proposer. Pensez à l'exemple dramatique des deux filles de Lot dans la Bible qui excusent leur relation incestueuse avec leur père par ces mots « C'est afin que nous conservions la descendance de notre père ». La cinquième, le refoulement. Il est très fréquent. Le refoulement consiste à expulser dans mon inconscient un souvenir conscient qui me trouble. Ainsi Moïse tue l'Égyptien et le cache dans le sable en pensant qu'en enterrant le cadavre, il enterre aussi le souvenir de son crime au fond de son inconscient. Les faits et les sentiments que j'enfouis paraissent oubliés. Mais si le péché n'a pas été avoué à Dieu, si les blessures n'ont pas été guéries par le Seigneur, tout cela va continuer à ronger ma santé psychique. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Victor Hugo. Les asiles psychiatriques sont pleins de gens ayant refoulé leurs problèmes. Dieu connaît ce qui est profond et caché. Il connaît tout de moi. Dieu connaît les blessures cachées en nous que nous ne sommes pas toujours capables de voir. Quand nous demandons à Dieu de sonder notre cœur, il révélera les zones d'ombre de notre passé et les mettra en lumière au moment opportun. Que ma prière soit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est le psaume 139. Mais la question, chers auditeurs, qui nous est posée, la voici. Est-ce que je suis d'accord de laisser à Dieu ce droit de regard dans ma vie? Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.